Peut-être aurez-vous entendu en filigrane une thématique particulièrement chère au cœur de Julien, c'est l'Alliance. Et donc, il m'a en quelque sorte passé commande pour un texte concernant l'Alliance, mais il ignorait que lorsque c'est le dimanche qui précède mes vacances, en général je fais l'inverse de ce qu'on me demande. Donc je vais quand même parler de l'Alliance, mais d'un texte où ça se passe mal pour l'Alliance. L'Alliance dans ses mauvais jours, en quelque sorte. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, et c'est à partir du verset 18. Le peuple hébreu est sorti d'Égypte, cette terre de servitude. Il est dans le désert et Moïse s'est rendu vers le mont Sinaï, où il reçoit de nombreuses instructions, de nombreuses paroles. Et voici où nous en sommes au moment de la narration, au chapitre 31, à partir du verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Jusque-là, tout va bien. Mais le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit « Défaites les anneaux d'or qui sont à vos oreilles, qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse « « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol. » Reviens, reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables était l'œuvre de Dieu et l'Écriture était l'Écriture de Dieu, gravée sur les tables. Pour l'heure, frères et sœurs, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants louanges et prières et de poursuivre le chant du Te Deum, le cantique 69, aux strophes 7, 9 et 10. Levons-nous pour chanter Dieu. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, autrement dit parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons quelle est notre importance. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi par Jésus-Christ. Nous l'avons découvert dans ce livre que nous appelons la Bible, un livre où tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Chers frères et sœurs, il n'est vraiment pas glorieux, ce passage biblique. Du moins, pas glorieux pour ceux qui se reconnaissent dans le peuple hébreu. Avoir conservé l'épisode du veau d'or dans nos archives bibliques, c'est avoir pris le parti de ne pas conserver exclusivement les hauts faits, les faits glorieux, ceux dont on peut tirer une vraie fierté. Là, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sentons plutôt honteux de l'attitude du peuple auquel nous nous associons. Alors, pourquoi avoir conservé ce genre d'épisode dans ce qui nous tient lieu de fondement de la foi? Je pense que ce n'est ni par masochisme, ce qu'aujourd'hui nous appellerions du bashing, ni par souci de garder l'intégralité des faits historiques du peuple hébreu que ce texte s'est retrouvé dans la Bible. L'intérêt de ce texte, c'est qu'il nous parle. Il parle à nos mauvais moments. Il parle à nos périodes d'angoisse. Il nous parle lorsque nous nous sentons comme orphelins, comme abandonnés peut-être, face à l'immensité de la vie, comme le sont les Israélites à cette époque. Ce texte biblique nous parle lorsque nous nous sentons assez désemparés face à ce qui nous arrive. Ce texte ne cherche pas à nuire à l'image, à la réputation du peuple hébreu, mais il va essayer de trouver une solution au problème du moment. Ce texte n'est pas présent dans la Bible au titre d'un récit historique, qui ne doivent pas être mis de côté sous peine de faire du négationnisme, dans la mesure où ce texte n'est pas un récit historique, du moins au sens où nous comprenons l'histoire de nos jours. Ce texte a été rédigé pour nous aider à réagir lorsque nous nous sentons démunis. Et ce sentiment d'être démuni est souvent la conséquence de la vraie liberté. Le peuple hébreu vient d'être libéré. Libéré de l'esclavage, que pourrait-il espérer de plus? Il était confiné dans un pays où on l'astreignait à accomplir toutes sortes de corvées. Il ne valait rien. On pouvait tranquillement le battre sans qu'il ait son mot à dire. Et voilà qu'un homme s'est évertué à faire sortir ce peuple de cette condition de servitude, Moïse, qui a pris la tête d'un mouvement qui a conduit ce peuple à sortir d'Égypte pour entrer dans le désert. Mais Moïse, le leader charismatique, n'est plus là. Et les Israélites sont comme perdus. Pour le moment, nous voyons que les Israélites ont donc encore besoin d'un chef, d'un guide, un leader, une personne qui leur dise que faire, où aller, que penser, qu'espérer. Et Moïse, qui tarde à revenir, cela fait bien une quarantaine de jours qu'il n'est pas revenu, eh bien, ils se sentent comme déboussolés. Ils n'ont plus ce guide pour les orienter, pour donner du sens à leur expédition. Ils ressentent ce que nous pouvons appeler une véritable perte de sens. Et voilà ce à quoi le texte va s'efforcer de répondre. Que faire quand nous connaissons une perte de sens? Eh bien, la première réaction, c'est celle d'Aaron. Aaron qui réagit en demandant au peuple de lui confier son or. Peut-être se dit-il qu'en demandant l'or du peuple, ça va calmer leur ardeur. Et qu'ils vont se dire, non, non, dans ces conditions, on reste calme, on ne s'inquiète pas. Mais non, ils prennent les boucles d'oreilles, ils donnent tout. La peur est tellement forte, ils sont tellement saisis par l'angoisse que si la solution c'est de se déposséder de son or, ils se dépossèdent de leur or. C'est dire la radicalité de leur situation. La peur du vide. Évidemment, cela n'est pas simplement un fait du passé. De nos jours, des réactions tout à fait irrationnelles sont encore possibles dans de telles circonstances. Sacrifier aux idoles n'est pas l'apanage du passé. Sous-entendu, c'était des peuplades primitives, mais nous, ça ne nous arriverait jamais. Pensez bien. En plus, on est protestants. Nous et les idoles, ça fait trois. Elle peut encore malheureusement se réaliser, cette situation, quand la peur devient le seul moteur actif dans notre existence. Or, la peur est bien le pire conseiller qui soit. C'est la peur. C'est la peur qui nous jette dans les bras des idoles, ce qui en soi n'est pas très grave. Mais les idoles, ce ne sont jamais que l'image, la métaphore des gourous, des charlatans. C'est la peur qui nous pousse parfois vers ce qui peut donner un sentiment de fermeté, de force, de stabilité, de puissance. Quand nous éprouvons l'angoisse de ce vide qui nous donne un avant-goût de la mort. Et c'est la peur qui nous offre en pâture à toutes les formes d'extrémisme, extrémisme qui s'est parfaitement composé avec la peur. C'est la peur du vide, la peur de disparaître à notre tour, qui nous conduit à accorder notre confiance totale, tout l'or, tout ce qui nous est cher, c'est une métaphore. Notre confiance totale à des systèmes d'autorité et de pouvoir qui, au lieu de favoriser l'humain, nous entraînent dans l'appauvrissement de l'humanité. Et de ce point de vue, prendre un veau d'or pour des dieux, c'est on ne peut plus clair. C'est vouloir retrouver un peu de stabilité dans la tourmente en s'accrochant à une branche morte. Un veau d'or. C'est quelques siècles en avance et l'or en plus, la caricature que Charles de Gaulle fera de ceux qui ont cessé de penser la chose politique, ont cessé de penser le vivre ensemble, ont cessé de penser l'être au monde, ont cessé de penser le sens des responsabilités, ont cessé de réagir, ont baissé les bras, se considérant comme battus avant même d'avoir engagé le fer. Charles de Gaulle n'est donc pas le seul à s'agacer de ce genre de situation. En disant que cela provoque la colère de l'Éternel, et je ne ferai pas d'amalgame entre l'un et l'autre, l'auteur biblique exprime que l'idolâtrie a une issue, une conséquence, c'est que ça va mal finir. Dire que cela enflamme la colère de l'Éternel, c'est dire qu'au bout du compte, ça va mal finir, ça va être dévastateur. Non pas que l'on imagine que l'Éternel soit ce personnage qui, par un souci de rétribution, punisse, extermine le peuple qui va de travers. C'est une manière de dire que si nous projetons l'intention du peuple et que le peuple va au bout de ses intentions, alors il se condamne. Il se condamne à n'être plus rien que l'image qu'il projette, ce veau d'or. Loin d'Aaron et du peuple qui cède à la tentation de l'idolâtrie, il y a donc Moïse. Moïse qui est face à Dieu, dit le texte. Être face à Dieu. C'est le moment où l'on place sa vie au regard de l'absolu, de l'éternel, pour en découvrir la vérité profonde, ce que nous faisons lorsque nous venons au culte. Du moins, essayons-nous. On se place face à l'absolu et non pas simplement face à ce qui est bon pour nous, pour évaluer ses choix, son éthique, ses inclinations, penser son avenir. Et tout cela, on ne le jauge pas en fonction de ses préjugés, on ne l'estime pas en fonction des phénomènes de masse, de ses mouvements de foule, de ce que pense la majorité, mais en fonction de ce qui transcende l'intérêt d'une personne, en fonction de ce qui transcende mes propres intérêts, en fonction de ce qui transcende mon propre égoïsme ou mon propre égocentrisme. Et cela pour rejoindre l'universel, l'éternel. Moïse s'est élevé sur le Sinaï, et cette élévation, qui est celle de la prière, permet de révéler la vérité d'une situation, de manière à pouvoir réagir de la meilleure manière qui soit et qui n'est pas celle d'Aaron, autant vous le dire. Dans le cas de Moïse, nous avons entendu qu'il est question de colère, qu'il est question de consumer le peuple qui s'est corrompu, qui fait fausse route. Est-ce inéluctable ? Est-il une sorte de fatalité qui s'abat sur le peuple d'Israël ? Eh bien, dans son face-à-face avec l'Éternel, dans son face-à-face avec l'Absolu, Moïse va entreprendre un long chemin. Il va aller chercher au plus profond de la mémoire, une mémoire qui transcende largement sa situation personnelle, justement, et même la situation de son peuple au moment où il est en train de vivre ce qui lui arrive. Il va aller chercher cette vieille promesse, faite autrefois à Abraham, à Isaac, à Israël. Moïse va aller chercher cette vieille promesse qui est une double bénédiction. La promesse d'une fécondité et la promesse d'une terre habitable, où il est possible de vivre. Au cœur de la tourmente, alors que le monde qui l'entoure risque de se défaire, voire de s'effacer, alors qu'il vit une crise de situation majeure, Moïse va aller puiser à la source de la mémoire l'eau fraîche qui lui est nécessaire pour faire reverdir le désert que le peuple est en train de traverser. Il n'est pas simplement un désert topographique, mais qui est un désert d'humanité. Aller puiser dans la mémoire de bonnes raisons de croire encore, de bonnes raisons d'espérer encore. Moïse va se souvenir du lointain passé de son peuple pour pouvoir penser l'avenir, ce qui fera dire quelques siècles plus tard à Rabbi Naaman de Breslav cette belle formule, se souvenir de son futur. Le passé nous offre de belles leçons de vie. À nous d'y puiser ce qui nous permettra d'affronter l'avenir en nous rappelant que nous sommes appelés à vivre ce qui rend le monde fécond et vivable. Puiser dans notre mémoire les ressources nécessaires pour affronter notre présent et faire en sorte qu'il y ait un avenir. Cela, nous le lisons par exemple dans l'histoire du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik qui est pris dans une rafle en janvier 1944. Il est juif. Il a 6 ans. Et il parvient à s'enfuir en se cachant dans les toilettes, le lieu, à côté du lieu où tout le monde a été rassemblé. Il rentre dans les toilettes et puis il se met à grimper et il va trouver une sorte de cache dans le plafond. Et puis il attend là, jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Et voici ce qu'il écrit. J'ai de cette journée de janvier 44 un sentiment de réussite. Le sentiment et le souvenir d'avoir fait un exploit, une prouesse. Et chaque fois que j'ai repensé à ce qui s'est passé, je me suis dit, t'inquiète pas, ça va aller. Il y a toujours une solution. Et je repensais à cette scène des pissotières, écrit-il. C'est comme ça que je suis devenu un bon grimpeur. Par la suite, je pouvais monter partout où je voulais en me disant simplement, si tu grimpes, tu pourras toujours t'en sortir. La liberté est au bout de ton effort. Il ajoute encore, quand je repense à ces moments terribles, c'est toujours un sentiment de victoire. Car même enfant, je pensais, ils ne mourront pas. Il y a toujours une solution. Dans le livre de l'Exode, la présence divine, c'est le fait de puiser dans la mémoire, les points d'accroche, les points d'appui, les points de repère qui nous permettent de nous hisser, de trouver la solution. Et cela se fait en reprenant confiance, au lieu de sacrifier notre liberté à la première idole venue. Retrouver dans sa mémoire des éléments qui ressuscitent notre confiance et donc notre amour du monde. Seul problème, c'est quand nous n'avons pas cette mémoire-là. Car il se peut que nous n'ayons pas eu dans notre jeunesse ces instants de réussite, ces succès de la jeunesse qui nous donnent confiance pour la suite des événements. Comment faire lorsque nous sommes sans mémoire ? Comment faire lorsque nous n'avons pas eu nos exploits de jeunesse ? Lorsque nous n'avons pas eu les nourritures affectives de nos parents pour constituer un solide capital confiance, par exemple ? N'est-ce pas justement le problème du peuple hébreu, qui est un peuple sans mémoire, à vrai dire ? Le peuple qui est sorti n'est pas raccroché à la mémoire des patriarches. Moïse lui-même ignorait tout. Il a été au bénéfice d'une révélation, ce qui signifie qu'il a dû apprendre. Il a dû retrouver les liens qui le liaient à cette double bénédiction. Je pense que c'est pour pallier à cela, à ce défaut de mémoire, que Moïse retourne vers le peuple avec les deux tables du témoignage. Pour le dire clairement, il me semble que c'est là une invitation à voir dans la Bible une mémoire auxiliaire pour tous les sans mémoire. Pour nous, lorsque nous n'avons pas eu dans notre jeunesse les faits qui permettent de constituer ce capital de mémoire. La Bible, dont les tables du témoignage sont la métaphore, peuvent devenir les points d'appui nécessaires pour ceux qui n'ont rien, ni mémoire, ni culture. Il y a dans les tables du témoignage un capital de mémoire dans lequel les démunis peuvent puiser. Et c'est en ce sens que la Bible peut être considérée comme patrimoine de l'humanité. La Bible est disponible pour tout le monde. La Bible est offerte à tous ceux qui sont en mal de mémoire, qui sont en mal d'expérience positive. La Bible devient le témoignage dont nous avons personnellement besoin. Et j'ajoute qu'il n'est pas anodin que les tables du témoignage soient de pierre. Quelle idée de faire des tables de pierre ! C'est tout à fait peu pratique, encombrant au possible pour un peuple nomade. Et puis, les pierres, ce n'est pas si solide que cela. Dans quelques versets, elles vont être brisées. Ce qui est intéressant, j'ouvre une parenthèse, mais dans une période où les gens sont en panne de sens, un structuraliste dirait, si vous cassez les tables de la loi, c'est comme découper un texte, ça crée une hémorragie de sens. Pourquoi les tables sont-elles de pierre ? Pierre est la traduction du mot hébreu « even », un mot qui peut se décomposer en deux mots, « av », le père, « ben », le fils. La pierre, c'est l'association du père et du fils. La pierre, c'est le point de contact entre deux générations. La pierre, c'est ce qui permet la transmission de la mémoire d'une génération à l'autre. Ce qui offre des récits dans lesquels nous pouvons puiser de bonnes raisons de croire et d'espérer encore, peut-être même malgré tout. La pierre, qui nous donne les outils nécessaires pour mieux comprendre notre situation, parce qu'une narration s'est faite et que l'expérience d'une génération s'est transmise à la suivante. Alors, vous me direz, et les mères dans cette histoire ? Bon, j'ouvre une autre petite parenthèse, mais les mères, en fait, viennent plus tôt dans le récit. Elles viennent dans le livre de la Genèse, au tout début. Si on prend les trois premiers mots, toujours en suivant la tradition rabbinique, « Bereshit bara Elohim »,« Dieu créa », au commencement. Et si on prend justement les lettres qui font frontière, nous avons « Bat », la fille, « Ba », vient, « M », la mère. Et donc, c'est cette idée que dès le départ de la Bible, il y a aussi une transmission entre fille et mère. Ça, c'était au cas où il y ait des polémiques féministes. Revenons à notre texte. La Bible comme collection de mémoire. Collection de mémoire d'hommes et de femmes qui ont fait face à des situations limites, et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir aussi des textes qui ne parlent pas simplement des hauts faits et des moments glorieux du peuple. Des situations limites, des situations où l'identité est en jeu. Et moins que des recettes qu'il suffirait de reproduire à l'identique, les archives bibliques constituent cette mémoire des témoins qui nous disent qu'il n'y a pas de déterminisme ou de fatalité, qu'il n'y a pas de situation devant lesquelles il faudrait finalement se prosterner en disant « c'est fichu, il n'y a plus rien à entreprendre ». Abraham, Isaac, Israël, trois figures de perdants. Alors bien sûr, Abraham, Isaac, Israël, on se dit « voilà, ce sont les patriarches glorieux ». Oui, glorieux ultimement, mais Abraham, c'est quand même l'homme idolâtre qui vit à Ur en Chaldée. Mais il va quitter sa patrie, sa famille, pour aller vers un pays de liberté. Isaac. Oui, Isaac se retrouve quand même ligoté sur un autel, prêt à être sacrifié et brûlé tout entier. Oui, mais quelqu'un va répondre à l'appel du messager de l'Éternel. Isaac aura la vie sauve. Israël. Israël le roublard, qui... C'est Jacob, hein, Israël, avant qu'il change de nom, qui va piquer la bénédiction de son frère, qui va rouler son beau-père dans la farine, mais qui sera détenteur et porteur et transmetteur de la promesse et de la vie. Abraham, Isaac, Israël, trois trajectoires qui révèlent que les impasses de la vie peuvent se fissurer, qu'il y a toujours possibilité de faire demi-tour pour sortir des impasses si jamais ça ne se fissure pas correctement. Ces mémoires rassemblées dans la Bible nous invitent à redécouvrir la foi qui a été celle de ceux qui ont bravé le chaos, de ceux qui ont donné à leur existence une intensité hors norme, de ceux qui ont réenchanté le monde. David, le petit berger, là. Saül qui, grosso modo, lui dit « Non, non, toi, tu restes derrière, c'est dangereux pour toi ce qui va arriver, là, face à l'énorme Goliath. » C'est le petit berger qui sauve Israël avec sa fronde. Les textes bibliques sont là pour tracer une topographie de la réussite, une topographie positive de la vie, pour que nous puissions repérer les zones dangereuses, certes, mais aussi les points d'appui possibles, les chemins de traverse, les points remarquables. La Bible décrit le monde, notre monde, afin qu'il soit moins effrayant et donc plus familier. Et c'est heureux que la Bible parle aussi des moments d'angoisse et de douleur. Du coup, c'est moins effrayant. On est mieux préparé. La traversée sera plus facile. La Bible nous aide en décrivant le monde. Parce que ce faisant, elle nous aide à mettre un peu d'ordre dans la confusion de notre vie intérieure, et du coup, elle nous aide à ne pas nous jeter dans les bras des premières idoles venues. La présence divine, c'est donc ce dialogue avec la vie. C'est ça que Moïse fait, un dialogue avec la vie. Non seulement la vie à venir, mais la vie passée également. C'est un dialogue qui s'oppose à la contemplation passive, fascinée, d'une statue, d'une idéologie, d'un système qui n'a rien à dire, rien à expliquer, rien à suggérer, mais tout à prendre de notre existence. Parce que quand on commence à prendre notre or, on prend tout le reste, on prend notre âme. La présence divine n'est pas la fixation d'un moment qui ne cesserait pas de durer. La sécurité, ce n'est pas cela. Ce n'est pas que rien ne bouge. La sécurité, c'est de donner les bonnes impulsions, de donner les bonnes directions, le bon sens à notre vie et à la vie de celles et ceux qui sont autour de nous. La présence divine, tout au contraire de l'immobilisme, c'est faire entrer en dialogue tous les temps et tous les acteurs de la vie, en hissant le débat au-dessus des intérêts particuliers, au-dessus des revendications personnelles. Porter la vie à hauteur de l'universel. La présence divine, c'est lorsque nous découvrons que nous pouvons résister aux ondes de choc et que nous pouvons faire histoire, malgré les signes des temps qui parfois semblent très défavorables. Amen.